Radio Kapi. Oh, Kapi.
Poursuite des combats entre les FARDC et les rebelles du M23 dans la zone de Binkeke et Rovumu ce mardi matin. L'armée congolaise a repoussé cette attaque d'après les sources administratives locales. Ces combats par ailleurs auraient fait des victimes dans la population. Les diagnostics médicaux confirment une intoxication d'origine alimentaire de plus de 70 personnes admises à l'hôpital après une fête de mariage dans la ville de Kikwit, annonce le maire de la ville qui affirme que bon nombre de ces personnes ont déjà quitté l'hôpital après la prise en charge. Enfin, nous recevons dans cette édition du journal l'artiste peintre Franck Dikisongele Zantoumoua. Il est le coordonnateur de la plateforme culturelle RD Congo Terre d'artistes. Il nous parlera de l'exposition pluridisciplinaire d'œuvres d'art qui aura lieu à la place de l'échangeur de Limité dans le cadre des activités marquant le retour de la relique de Patrice Emery Lumumba. Voilà tout pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonjour. C'est aujourd'hui que la dépouille de Patrice Emery Lumumba quittera le sol belge pour la RDC. Des honneurs militaires seront organisés avant les départs. Le rapatriement à Kinshasa des restes du premier ministre de la RDC se fera à bord de l'Airbus du nom de Patrice Emery Lumumba de la compagnie Congo Airways. Un avion floqué à son effigie pour l'occasion. Ce retour au pays marque ainsi la fin des cérémonies officielles organisées en Belgique autour de la restitution de la dent de Patrice Emery Lumumba à sa famille. Nous l'avons dit au sommaire, au Nord Kivu, les affrontements entre les FARDC et les rebelles du 1-23 se poursuivent depuis tôt ce mardi dans la zone de Binkeke et Rovumu. C'est vers les limites entre les groupements de Kisigari et Djomba. Selon les sources administratives locales, si cette attaque a été repoussée par l'armée, quelques civils trouvés dans la zone auraient été tués par des bombes larguées par les rebelles. Aucune réaction de l'armée jusqu'ici, Bernard Nyangi.
Les sources administratives de la société civile à Rutshuru indiquent qu'après avoir été repoussés hier lundi dans les zones de Karambi, Kitagoma et Kitovu, groupement Bweza et Busanza, les rebelles du 1-23 ont attaqué l'axe sud ce mardi. Ces affrontements qui ont commencé autour de 23h hier se sont intensifiés entre 2h et 3h du matin. Les rebelles du 1-23 auraient ciblé les positions FARDC vers Binkeke et Rovumu sur l'axe Kabaya-Rumangabo, précisent ses sources, et qui indiquent que des tirs sont entendus dans la zone toute la matinée ce mardi. Jusqu'ici, nous n'avons aucune réaction de l'armée sur ces affrontements. Des sources coutumières locales indiquent que 9 civils auraient été tués dans la zone de Binkeke, Nkokwe et Bukima, alors que nombreux autres habitants de la zone sont sur le chemin de l'exil. Ces multiples attaques simultanées depuis dimanche soir par des rebelles du 1-23 contre les positions de l'armée menacent de plus en plus l'axe Matebe-Rwanguba. Les populations plaident pour des actions urgentes en vue de freiner ces actions des rebelles. Goma, Bernard Nyangi, Radio Kapi.
Entre-temps, le gouverneur du Nord Kivu vient d'ordonner depuis plusieurs lundis à tous les opérateurs économiques de suspendre toute opération d'importation et d'exportation des marchandises via le poste frontalier de Bunagana. Ce poste douanier est situé en territoire de Rutshuru à la frontière avec l'Ouganda. Le lieutenant-général Constant Dima motive cette mesure à la suite de l'occupation de la cité frontalière de Bunagana par les rebelles du 1-23 depuis le 13 juin dernier. Denise Lukesu.
D'après le communiqué du gouvernement provincial d'hier lundi, tout opérateur économique ou commerçant qui va enfreindre cette mesure sera considéré comme complice. Dans ces mêmes documents, l'autorité provinciale prévient que toute personne dont la marchandise de quelque nature que ce soit, qui pourra se servir de ces couloirs pour importer ou exporter sa marchandise, sera considéré comme fraudeur et collaborateur des rebelles du M23. Le lieutenant-général Constant Dima précise toutefois que les trafics commerciaux pourront reprendre au niveau des ses postes frontaliers dès la reprise du contrôle de Bunagana par les FARDC. Il affirme que l'armée est à pied d'œuvre pour restaurer incessamment l'intégrité territoriale et l'autorité de l'État. Au même moment, le M23 annonce pour sa part l'ouverture du trafic commercial sur ses postes frontaliers pour permettre, dit-il, à la population de se ravitailler en vivres. Mais aussi, selon les porte-parole du mouvement rebelle, pour permettre le retour des populations, notamment des écoliers, afin de passer les NAFEP et l'examen des qui approche. Rappelons que les postes frontaliers congolais de Bunagana est depuis une semaine environ occupé par les rebelles du M23. Goma, Denise Lukesso, Radio Kapi.
En Ituri, 3 personnes, dont un militaire FRDC et 2 présumés miliciens de la CODECO, sont morts et 4 autres blessés ce lundi au cours des combats entre l'armée régulière et ce groupe armé entre les localités de Lopa et Jina dans le territoire de Djougou. Selon des sources de la sécurité, ces malfrats ont attaqué une position des FRDC pour avoir accès sur la route nationale numéro 27 en vue d'ériger des barrières pour rançonner les passagers. Les FRDC ont délogé ces assaillants qui se sont retranchés dans leur bastion à Mbaoulo Kandé et Sesele. Le trafic a été perturbé pendant quelques heures sur cette route nationale avant de reprendre normalement pendant la journée. Toujours en Ituri, un retour progressif des populations s'observe depuis environ un mois dans plusieurs localités dans les territoires de Djougou, Mahagi et Irumu. Selon des sources concordantes, c'est suite à une accalmie due notamment à la cessation unilatérale des hostilités par certains groupes armés et les opérations militaires menées par les forces conjointes FRDC et armée ougandaise contre les rebelles de ZADF. L'armée invite les miliciens qui détiennent encore les armes à les déposer pour le rétablissement d'une paix durable dans cette province. Le point avec Ezekiel Mouzalia.
C'est depuis plus d'un mois que la situation sécuritaire semble s'améliorer dans plusieurs entités de la chefferie de Walendu-Watsi ainsi que de Panduru à Mahagi à la limite avec le territoire voisin de Djougou. Il s'agit par exemple des villages Yaku, Loko, Rimba et Ngakpa qui s'étaient presque vidés de leurs habitants il y a de cela une année. Le responsable de cette entité coutumière salue les avancées sécuritaires dans la zone ainsi que la signature de l'acte d'engagement des cessations des hostilités qui selon lui a facilité le retour progressif de la population. Arnold Loko.
Ce qui rassure actuellement la population, c'est la présence d'abord de militaires à Kambala et aussi à Katanga. Et aussi, on a le fait qu'il y a eu signature d'accord de cessation des hostilités par les éléments de Codeco. C'est cela qui, davantage, sont en train de rassurer la population.
Le retour de la population est également observé au village Babumbe, Tolitoli, Bahaha, Makwangi et Lolwa dans le territoire de Mambasa. C'est grâce aux opérations de traque des rebelles des ZADF par les FARDC et l'armée ougandaise. Cependant, ces retournés vivent dans des conditions difficiles. Le porte-parole de l'armée en Ituri appelle d'autres groupes armés qui détiennent encore les armes d'adhérer au processus de paix initié par le chef de l'État. Bounia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
Pendant 7 ans, la délégation des émissaires du président de la République pour une mission de paix en Ituri entre juillet 2020 et janvier 2021 encourage le groupe armé URDPC-CODECO à demeurer fermement engagé au processus de paix et de dialogue. Elle invite en même temps les autres groupes armés opérant dans l'Est de la RDC à s'inscrire dans le schéma de la paix pour la stabilisation de l'Est en aboutant les pas de l'URDPC-CODECO à travers sa déclaration publique et solennelle du 15 juin dernier. Dans un communiqué de presse publié ce mardi à Kinshasa, le chef de cette délégation recommande ainsi au gouvernement de tout mettre en œuvre pour répondre positivement à son cahier de charges et d'accélérer le processus des PDDRCS. Floribert Ndjabou est au micro de Jeff Ngoy.
La délégation demande à l'URDPC-CODECO de demeurer ferme dans son engagement et de ne céder à aucune provocation d'où qu'elle vienne. Elle appelle également les autres groupes armés de l'Ituri à emboîter le pas en s'inscrivant au processus de paix tel qu'initié par le président de la République, chef de l'État. La délégation de son Excellence Monsieur le Président de la République demande au gouvernement de la République de tout mettre en œuvre pour que le cahier des charges lui transmis à son temps trouve une réponse appropriée pour permettre le rétablissement de la paix dans cette partie du pays. Enfin, la délégation de son Excellence Monsieur le Président de la République soutient le processus engagé en Ituri pour un retour rapide de la paix dans cette province.
Au Sud Kivu, Dr Denis Mukwege invite la population congolaise à dénoncer le message d'incitation à la haine, à ne pas les partager sur les réseaux sociaux. Il ne faut pas tomber dans le piège de la vengeance aveugle et de la chasse des paisibles citoyens sur base de leur langue ou apparence physique, rappelle Dr Denis Mukwege. Il a dit dans un communiqué rendu public à Bukavu ce lundi 20 juin. Le condensé avec Cynthia Bachizi Nabizana.
Le docteur Denis Mukwege dit comprendre l'amertume et la colère de la population par rapport au contexte actuel, mais elle ne doit pas tomber dans le piège des ennemis de la paix, car la violence ne peut engendrer que la violence. Voilà pourquoi elle est inacceptable, martèle le prix Nobel de la paix 2018. Il faut tirer les leçons de l'histoire récente de la région des Grands Lacs, a-t-il dit. Résistons aux sirènes de la xénophobie, ne cédons pas au discours de la haine de l'autre. La vengeance, le rejet, l'insulte abaisse l'humanité, poursuit le docteur Mukwege. Et cela est un crime tout aussi condamnable que l'agression dont la RDC est victime actuellement. Pour le prix Nobel congolais, ces actes ne doivent pas rester impunis. C'est ainsi qu'il en appelle aux autorités administratives et judiciaires congolaises qui en ont la responsabilité de poursuivre en justice les personnes qui, par leurs messages extrémistes, incitent la haine et à la violence. Cynthia Bachizi, Bukavu, Radio Okapi.
Autre nouvelle, l'Union nationale des fédéralistes du Congo, UNAFEC, et l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, appelés à enterrer la hache de guerre. La demande est du vice-gouverneur du Haut-Katanga, qui a réuni les deux parties ce lundi à Lubumbashi. Ceci fait suite aux troubles survenus la semaine dernière, notamment à Kasumbalesa, où certains militants de ces deux formations politiques se sont affrontés, paralysant ainsi les activités commerciales. Jean Gandou pour les détails.
Cette rencontre est intervenue quelques jours après des vives altercations survenues entre ces deux formations politiques, à Kasumbalesa notamment, où leurs membres se regardent en chaîne défaillance. Notons qu'au cours de ces incidents, les sièges de ces deux formations ont été vandalisés et certains militants blessés. Difficile à l'heure actuelle de savoir la véritable pompe des discordes. Cette situation a à en croire le maire de Kasumbalesa paralysé les activités commerciales pendant deux jours. Voilà pourquoi il a mis autour d'une même table le protagoniste à qui il a demandé de mettre fin à ces désordres qui ne fait pas avancer cette ville confrontée déjà à plusieurs difficultés. Ses interlocuteurs ont tous pris la décision de taire leurs différends. De son côté, le vice-gouverneur de la province du Haut-Katanga, qui a reçu le représentant de ces deux formations politiques, leur a demandé de privilégier la paix et de vivre en harmonie. Ces leaders se sont engagés à leur tour à œuvrer pour la paix et la cohabitation pacifique, encore que leurs partis sont membres de l'Union sacrée. Ils ont promis de regarder désormais dans la même direction et ont appelé leurs militants au calme. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
Admission de plus de 70 personnes à l'hôpital après une fête de mariage dans la ville de Kikwit, province du Kwilu. Les diagnostics médicaux confirment une intoxication d'origine alimentaire. Le maire de la ville qui livre l'information indique qu'une équipe de l'INRB est diligentée à Kikwit pour le prélèvement des échantillons afin de dénicher l'origine de cette intoxication alimentaire. Léonard Moutanga précise qu'à l'heure actuelle, un bon nombre de malades victimes ont déjà quitté l'hôpital après la prise en charge. Irène Bouma.
D'après les informations récites du maire de la ville de Kikwit, ces personnes qui ont été internées dans différentes formations sanitaires de cette ville après avoir participé à une fête de mariage dimanche 12 juin 2022 ont été bel et bien victimes d'une intoxication alimentaire. Ceci est le diagnostic de certitude après investigation médicale. Quant à la dite intoxication alimentaire, Léonard Moutangou indique que des échantillons sont déjà prélevés par une équipe de l'INRB diligentée sur place pour en élucider l'origine.
Le diagnostic médical a été fait. Les échantillons sont au laboratoire. Une équipe de l'INRB était descendue ici sur place. Ils sont en train de faire d'autres investigations. Nous saurons à quoi était due cette intoxication. La plupart de ces malades sont sortis de l'hôpital. Je dirais que ce n'est pas la première fois. Au mois d'avril, j'ai été informé des gens qui ont eu des malaises après une autre fête.
Pour rappel, sachez que sur les 250 personnes qui ont pris part à cette fête de mariage, plus de 70 y comptent. Les couples à l'honneur ont présenté des signes cliniques comme l'émission de sels liquides, les vomissements, la colique abdominale et l'asthénie physique. Irène Mboma, Bandundouville, Radio Okapi.
Et puis en plus bref, au Maniema, plus de 6000 cas de rougeole ont été enregistrés avec 157 cas de décès en 2021. Cette situation préoccupe le gouvernement et ses partenaires. C'est dans ce sens que le gouvernement provincial a lancé le lundi 20 juin, à partir de la zone de santé des Campenés, la campagne de vaccination contre la rougeole sur toute l'étendue de la province. De plus en plus de cas d'annulation des vols en RDC avec la plus haute désapprobation des passagers. Hier lundi, par exemple, à l'aéroport de Ndjili, des passagers de Congo Airways à destination de Kananga se sont accrochés avec la police jusqu'au-delà de 21h suite à l'annulation tardive de leur vol. Congo Airways n'a avancé aucune raison d'annulation de leur vol avant qu'ils avaient déjà payé leur Go Pass et accompli toutes les formalités. Congo Airways a remis 10 dollars par passager pour se débrouiller, ce qui suscite la colère des passagers. Michel Kifindangoy.
Tout est mis pour tout revendiquer. Il y a des agents et la police, bah, côté pour n'avoir pas de bengana biso, n'aba bien na biso, n'aba go pass, n'aba nion se fallait payer.
C'est depuis 7h du matin que les passagers sont arrivés pour le check-in à l'aéroport d'Ndjili. Prévu pour 10h, le décollage du vol Congo Airways n'a pas eu lieu jusqu'à 18h, s'indignent les passagers.
Nous sommes ici depuis 7h du matin, arrivés vers 16h quelques minutes. On nous apprend brusquement comme ça que vol est hâté. Quelle est la cause? Et maintenant, nous sommes là à l'aéroport. On ne sait maintenant quoi faire et où aller, Congo Airways.
Après avoir annoncé tard dans la soirée l'annulation du vol, Congo Airways a remis 10 dollars à chaque passager, ce qui suscite la colère de ces derniers.
Depuis 10h jusqu'à 18h, on ne voyagera pas demain avec ça.
Que votre chef vienne ici.
C'est le bien qui est en train.
Contactés, les autorités de Congo Airways parlent d'un problème technique qui a été dépanné la nuit même et confirment la reprogrammation du vol à destination de Kananga pour ce mardi.
Actualité internationale.
La première ministre française, Elisabeth Borne, a remis sa démission au président Emmanuel Macron, qu'il a refusé, afin que le gouvernement puisse demeurer à la tâche et agir en ces jours, a annoncé mardi l'Elysée. Le chef de l'État va mener les consultations politiques nécessaires afin d'identifier les solutions constructives envisageables au service des Français.
L'invité.
Notre invité dans cette édition du journal est l'artiste peintre Franck Dikisongele Katumwa. Il est coordonnateur de la plateforme culturelle RD Congo, Terre d'artistes. Et il nous parlera de l'exposition Eko Lumumba, qui est une exposition pluridisciplinaire d'œuvres d'art qui aura lieu à la place de l'échangeur de Limité dans le cadre des activités marquant le retour de la relique de Patrice Emery Lumumba. Il s'entretient ici avec Jean-Marc Matouaki. Suivez.
Franck Dikisongele Katumwa, bonjour.
Bonjour, monsieur Jeannot Matouaki.
Avant qu'on parle du contenu de l'exposition, que vous rappellent les personnages de Patrice Emery Lumumba en tant qu'artiste et enseignant à l'Académie des Beaux-Arts?
La personne de Lumumba me rappelle le poids du Congo, la ferme volonté d'exister, cette volonté d'avoir une identité propre en soi. C'est vrai, on est le ressourcement de plusieurs cultures. On ne peut pas se refuser aujourd'hui, on traverse les frontières, les océans. Mais que devenez vous-même si vous n'avez pas une identité, si vous n'avez pas un starting block? J'appelle starting block, c'est les points de départ qui vous donnent la force d'aller plus loin. Ce qui nous donne la force de plus loin, c'est notre culture. Donc Lumumba, pour moi, me rappelle la détermination. Cette forme et volonté de vouloir donner le meilleur de soi-même.
Alors, l'exposition Eko Lumumba se tient de quelle date jusqu'à quelle date?
Sur la demande des autorités, l'expo se tient à partir déjà du 29. Certes, ça devrait bien rester 2 semaines, mais je pense qu'avec 2 jours sur demande des autorités, l'exposition pourrait aller jusqu'au mois de janvier 2023. Cette durée-là, ça permettrait que tout le monde vienne visiter. Parce que il n'est pas question tout simplement de mettre les reliques de Lumumba dans le mausolée, mais aussi les contextes historico-politiques qui surplombaient de la culture ou de l'aspect culturel. C'est ce qui est important que l'on voudrait faire communiquer et en même temps communier, partager avec la population. Donc, désormais, l'on ne regardera plus Lumumba comme simple figure politique, mais aussi historique à côté de l'historique, les côtés culturels qui fait la force de tout un peuple.
Combien d'artistes participeront ou participent à cette exposition et comment ces artistes essaient de représenter chacun à travers son médium, à travers sa discipline, le personnage de Lumumba?
Il y a une 20aine d'artistes dont la sélection est faite par ceux-là qui étaient déjà intéressés quand nous avions lancé la chose. Mais nous pensons que, comme vous le dites, l'exposition, il est écho Lumumba. Avez-vous entendu parler de Lumumba? C'est ça le contexte aussi de l'exposition, le contexte de la création de cette exposition, dans la créativité de cette exposition, dans cette exposition. Vous avez entendu parler de Lumumba. Qui vous inspire Lumumba? Comment percevez-vous Lumumba? Parce qu'il est question de la perception comme la sensation interprétée. Cela pourrait être avec des erreurs, si l'on ne perçoit ou si l'on n'interprète qu'avec les yeux. Mais si l'on amène l'interprétation au niveau du jugement, au niveau de la raison, au niveau de la, oui, la raison d'être, de la pensée et la réflexion, eh bien l'on ne donnera pas Lumumba seulement simple figure Lumumba photo. Non, ce n'est pas ce que nous voulons. Nous voulons donner à travers cette exposition comme un chiasme, comme un alibi en ce qui concerne le pays, le Congo, l'Afrique, que chacun puisse donner l'image qu'il avait de Lumumba après l'avoir entendu, après avoir entendu parler de Lumumba, de ce qu'il a fait. Parce qu'aujourd'hui, on peut dire Lumumba a impacté le monde. Mais s'il a impacté le monde, à partir de quel âge? Et si c'est à partir de cet âge, qui est-ce qui était le soubassement de ses pensées? C'était culturel. Donc pour qu'un peuple soit fort, mûr, il faudrait d'abord que culturellement qu'il ait des bases. Donc je trouve ça avec raison qu'aujourd'hui le président de la République, dans tout ce qu'il fait, il essaye d'inclure toujours un aspect culturel. C'est avec beaucoup de bonheur, il a visité l'Académie des Beaux-Arts, il a été dans la Journée mondiale de la culture africaine et afro-descendante, et aussi il a été dans la représentation du Congo à Dubaï, dans l'Expo 2020, et aussi nous, quand nous avons eu le bonheur d'aller au FEMIA, à Abidjan avec le ministère de la Culture, c'est par la volonté du gouvernement. Donc nous avons laissé un impact du point de vue culturel. En suivant même les films de Rumba King de Kleiss, les réalisateurs parlaient, c'est quelque chose qui est extraordinaire pour les Congolais. Quand les Congolais partent pour des négociations à l'étranger ou partout, ils amènent toujours la musique. Il voudrait dire qu'ils amènent toujours une partie de la culture. C'est extraordinaire parce que la culture comme un ferment qui permet de consolider nos relations. Peu importe nos différences, mais nous pouvons nous enrichir par la culture. Je pense que c'est l'écho que le président de la République voudrait donner à partir de ces peuples dont maintenant il a le bonheur de diriger. Ce n'est pas enfin qu'il avait dit d'abord le peuple. La culture, c'est le peuple.
Franck Dikisonge les Atouma, merci d'avoir répondu à nos questions.
Je vous remercie beaucoup et surtout l'intérêt que vous portez sur le retour du corps de Lumumba par ses aussi cette exposition, et je pense que ce n'est pas que les artistes, aussi tout ce monde, chacun dans son domaine, aujourd'hui on peut vanter Lumumba et nous sommes heureux de l'avoir maintenant enterré dignement en République démocratique du Congo sous l'impulsion de son excellence, monsieur le président de la République, Fatih, remercie.